se renforce aujourd'hui à travers tout ce qu'on vit. Donc, simplement pour vous situer un petit peu dans le contexte, c'est la troisième partie d'un message qu'on a commencé il y a 3 semaines. Retournez avec moi dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Alors, j'ai une question pour vous, pendant que vous tournez, vrai ou faux, Satan est contre la religion. Ne me répondez pas à haute voix. Certains disent que oui, d'autres disent que non. La réponse, c'est que Satan n'est pas contre la religion, chers amis. Au contraire, nous allons découvrir que Satan utilise la religion pour tromper les gens. C'est un des meilleurs outils qu'il a dans son sac. Et la religion, elle lui sort par les oreilles. Satan mange et en bouffe de la religion jour et nuit. Parce que c'est un moyen, un outil formidable dans son coffre à outils pour séduire les gens, pour en fait les tromper et les faire diriger dans une mauvaise, voie. En fait, si vous examinez la Bible, vous allez découvrir que la première tentation dans le Jardin d'Éden était une tentation religieuse. Non pas celle de ressembler à Dieu, mais d'être comme Dieu ou de devenir son propre Dieu. Et encore aujourd'hui, eh bien, le diable travaille dans ce domaine-là. Rappelez-vous, il dit à Ève, « Regarde, Ève, si tu fais cela, tu seras comme Dieu. » Il ne le tentait pas pour qu'elle se sente diminuée, mais plutôt pour la mettre en valeur en lui faisant croire qu'elle serait comme Dieu, mais selon la façon de penser du malin, pas selon la façon de penser de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la même stratégie qu'il utilise, la même stratégie. Car voyez-vous, le diable, je répète, est impliqué dans la religion jusqu'aux oreilles. Il est impliqué dans la religion jusqu'aux oreilles. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce matin, Seigneur, pour ta parole que tu nous as laissée. Merci pour cette histoire, ce récit que nous allons lire, Seigneur, qui va nous permettre de mettre en lumière, Seigneur, ceux qui vivent une religion, ceux qui vivent une relation avec toi. Seigneur, ceux qui sont tentés, ceux qui sont tombés dans les pièges du malin. Et Seigneur, ce matin, nous voulons, à travers la personne de Jésus-Christ, Seigneur, si tu dois restaurer toute chose, que tu puisses le faire, parce que, Seigneur, notre plus grand besoin, notre plus grande joie aussi, Seigneur, c'est de lui ressembler. Ressembler à Jésus-Christ, non seulement crucifié, mais aussi ressuscité, parce que c'est lui que nous voulons annoncer. C'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui est notre espérance. Et le peuple de Dieu dit
Amen,
Amen. Lisons les versets 5 à 8 dans le livre des Actes, au chapitre 8. Actes chapitre 8, les versets 5 à 8. Philippe était descendu dans la ville de Samarie pour y prêcher le Christ. Alors l'Évangile, qu'est-ce que c'est l'Évangile? On n'est pas là pour endormir les gens, on n'est pas là pour consoler les gens. L'Évangile, prêcher l'Évangile, c'est annoncer la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est prêcher l'Évangile. Annoncer la personne de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Ça, c'est l'Évangile. Et il dit, les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait. Quand elle l'entendait, elle voyait les miracles qu'il accomplissait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux étaient également guéris. Vous imaginez s'il y avait des démons ici dans cette salle ce matin, comment on réagirait? Si on entendait des cris, ça bondirait sur les murs, comment on réagirait? Vous imaginez cette foule qui n'est pas chrétienne, qui vient entendre Philippe et puis qui voit là, à travers la prédication de Philippe, il prêche Jésus-Christ avec puissance et les gens voient des démons qui sortent en hurlant et en criant et qui voient des gens tomber par terre parce qu'ils sont délivrés de ces démons qui les maintenaient captifs, esclaves et prisonniers. Prisonniers. Imaginez si ça se passait dans l'église. Comment on réagirait? Si on sortirait par les fenêtres, par les portes? Ou si on louerait le Seigneur d'avoir délivré un pauvre pécheur maintenu prisonnier depuis des années par le démon. Et regardez ce qu'il dit ici. Et il y eut une grande joie dans cette ville de voir la délivrance que le Seigneur Jésus opérait dans la vie des gens. Il y avait un véritable réveil en Samarie, frères et sœurs. Il y a toujours de la joie lorsque Jésus manifeste sa présence à un endroit. Il y a toujours de la joie lorsqu'il y a un vrai réveil, une joie indescriptible qui vient du ciel, parce que Dieu manifeste sa puissance. Mais remarquez au verset 9, de quelle façon le vent va tourner. Dans la Bible en français courant, dans vos Bibles, c'est marqué, il y avait auparavant, mais dans le grec, le mot c'est mais. On a remplacé en français par il y avait auparavant. Mais. Il y a un réveil, des gens se convertissent, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Et là, le texte nous dit « mais ». Vous savez, frères et sœurs, lorsque Dieu ouvre les fenêtres des cieux pour nous bénir, le diable ouvre les portes de l'enfer pour nous attaquer. Et là où il y a un réveil, vous pouvez vous attendre à voir le diable s'y opposer farouchement. Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le diable s'y oppose farouchement. Parce que le diable veut garder ceux qui lui appartiennent pour l'éternité. Ça, c'est son défi et ça, c'est vraiment son ambition. Le diable, il faut se rappeler, si Dieu nous aime d'un amour éternel, le diable, ce qu'il déteste le plus, c'est l'homme et la femme que Dieu a créés. Il va tout faire pour les empêcher de passer l'éternité dans le paradis et de devenir des co-héritiers avec Jésus-Christ de tout ce que Dieu a donné à Jésus. Lisons les versets maintenant 9 à 13. « Mais il y avait dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. » Alors, dans la Samarie, on sait qui habitait dans la Samarie, c'était les Samaritains. Hein. Tous, des plus jeunes aux plus âgés, l'écoutaient attentivement et disaient, « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance, car il y avait longtemps qu'il les étonnait par ses actes de magie. » Mais quand ils crurent à la bonne nouvelle que Philippe annonçait au sujet du royaume de Dieu et de la personne de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Il restait auprès de Philippe et il était rempli d'étonnement en voyant les grands miracles et prodiges qui s'accomplissaient. Et j'aimerais m'arrêter ici pendant quelques instants pour vous parler sur le faux christianisme sur l'imitation qui est faite du christianisme, du véritable christianisme. Frères et sœurs, le diable est un fin imitateur des choses de Dieu. Plutôt que d'amener les gens à rejeter la foi, il a fabriqué une religion qui lui ressemble. Et si vous vivez pour Dieu, vous allez rencontrer de l'opposition, soit comme individu ou en tant qu'Église. Le texte nous dit qu'il y avait une grande joie dans cette ville. Et quand le Seigneur est présent dans son Église, quand le Seigneur agit avec puissance dans son Église, il y a une grande joie au milieu du peuple de Dieu. Amen. Parce qu'on voit que Dieu agit. On voit que Dieu agit avec puissance. Il agit avec puissance où? Dans le cœur des gens. Et les gens se rencontrent le dimanche, ils sont dans la joie pour partager ce que le Seigneur a fait. C'est les guérisons qu'il a apportées durant la semaine dans leur cœur. Les miracles qu'il a fait. Dieu fait encore des miracles. Simplement nous amener à abandonner un péché qu'on traîne avec nous, c'est un miracle. Amen. Oui. Un miracle. On n'a pas eu besoin de d'afalgan pour s'en libérer. On a crié au Seigneur et il nous a délivrés, frères et sœurs. Il nous a délivrés. Si vous vivez pour Dieu, je rappelle, vous allez rencontrer de l'opposition comme individu ou en tant qu'Église. Et la semaine passée, on l'a vu, si vous n'avez pas d'opposition en tant que chrétien, eh bien, vous avez un gros problème. On l'a vu la semaine passée, on en a parlé pendant 15-20 minutes. On a un gros problème quand on ne subit pas d'opposition. On a un beau modèle qui est Jésus-Christ, et des fois, on se dit, bien, c'est impossible, c'est Jésus, ouais, il est à part des autres. On oublie que dans son 100% homme, il a vécu ce qu'on est appelé à vivre, les tentations. Il n'a pas commis aucun péché, il n'a pas succombé à aucune tentation. Mais on a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui nous ont précédés, qui ont marché dans les voies du Seigneur Jésus, qui lui ont ressemblé. Je pense à John Wesley, je vous l'ai dit plusieurs reprises, mais il y a de nouvelles personnes dans cette salle ce matin. Je veux simplement vous rappeler que John Wesley était tellement habitué à être persécuté parce qu'il annonçait l'Évangile, que ça faisait une journée qu'il n'avait pas été insulté et qu'on n'avait pas craché sur lui. Parce qu'il était chrétien. Il s'est mis à genoux, il a dit quelque chose qui ne va pas dans ma vie, il s'est mis à genoux. Il a prié le Seigneur, il a dit, « Seigneur, si j'ai péché, montre-moi là. » Et quand il est sorti, il y a quelqu'un qui a lancé une petite pierre dans le front, il est tombé à genoux, il a loué le Seigneur. Parce que le gars, la personne a dit, « Écoute, toi, je te déteste pour ce que tu prêches. » Frères et sœurs, est-ce que ça remonte à quand, la dernière fois qu'on a été persécuté parce qu'on s'est affiché comme chrétien? Frères et sœurs, c'est une promesse du Seigneur Jésus. Celui qui voudra marcher fidèlement dans mes voies sera persécuté. C'est aussi une promesse du Seigneur. On hérite du royaume, mais il y a des promesses qui sont moins agréables à entendre. Mais le Seigneur dit, un des signes que vous m'appartenez, c'est que vous allez être persécuté. Pourquoi? Parce que le monde baigne dans les ténèbres, il déteste la lumière. Et parce que vous êtes des enfants de lumière, le monde va vous haïr comme il m'a haï moi. Et si on m'a persécuté, on va aussi vous persécuter. Et il y avait une grande joie dans cette ville. Mais, Il est écrit que Satan va maintenant entrer. Il va maintenant entrer dans le décor, il va commencer son œuvre. Il y a trois choses sur lesquelles j'aimerais m'arrêter ce matin, qui sont de la plus haute importance pour nous concernant les dangers du faux christianisme. Trois choses dont j'aimerais que vous portiez une attention particulière. Premièrement, ne vous laissez pas éblouir par la puissance satanique qui se trouve derrière les fausses religions. Ne vous laissez pas séduire ni éblouir par la puissance satanique qui se trouve derrière les fausses religions. Verset 10. Il y a une grande puissance qui se cache derrière la fausse religion. Regardez ce qui est écrit au verset 10 ici. Concernant cet homme qui exerçait la magie. Tous, des plus jeunes aux plus âgés, l'écoutaient attentivement. Ils disaient, cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Frères et sœurs, je ne nommerai pas de nom parce que ce n'est pas biblique, mais il y a des télévangélistes américains qui font des prodiges devant les écrans de TV, qui chassent soi-disant des démons devant, en pleine télévision, devant des foules de 50 000 et 60 000 personnes. Et les gens louent cet homme sur l'estrade. Et ça fait partie de la fausse religion. Parce que les gens ne vont pas voir Jésus-Christ guérir. Ils vont voir l'homme qui guérit les gens. Et ça fait partie de la fausse religion. Regardez, cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste. Hein? Il est écrit au verset 9 et 10 qu'il y avait une puissance ou une force qui agissait à travers cet homme et que tous les gens étaient éblouis. Voici un homme qui pratique la magie. Et la magie, c'est un autre mot pour... Un autre mot qu'on utilise à la place du mot « sorcellerie ». Et en passant, je dois dire que la sorcellerie est non seulement bien vivante dans le monde dans lequel on vit, mais qu'elle est réelle et même bien réelle dans beaucoup d'églises. Vous dites « Oh non, c'est pas possible ». Oui, et beaucoup de gens sont éblouis et ne parviennent pas à comprendre qu'il y a un réel pouvoir surnaturel derrière tout cela. Ce que Simon est en train de faire ici, ce n'était pas juste des trucs pour enfants. Simon, ce n'était pas juste un illusionniste. Il était en ligne directe avec le diable. Pasteur, croyez-vous qu'il y a quelque chose de surnaturel derrière la sorcellerie? Absolument, absolument. Croyez-vous que certains ont des pouvoirs surnaturels? J'en doute pas un seul instant. J'étais témoin de choses épouvantables. Oui. Et en tant que chrétien, on devrait être blindé contre ça. Et pas se laisser séduire par ces choses. En fait, le monde est en train de se préparer à voir apparaître le surhomme qui portera le numéro 666 de Satan. Il va bientôt faire son entrée sur la scène mondiale, et un de ses outils, ce sera la magie ou la sorcellerie. Tournez dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, pour ceux qui ont leur Bible. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, où Paul parle de la venue de l'Antichrist, l'homme de péché. Il dit, l'apparition de cet impie se fera avec la puissance de Satan. Regardez ce qu'il ajoute. Il accomplira toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et frères et sœurs, les gens seront tellement aveuglés que comme à l'époque de Philippe, les gens vont penser que les miracles et les prodiges qu'il accomplit font partie de la grande puissance qui vient d'en haut, alors que ça vient du tréfonds de l'enfer. Il accomplira toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et qu'est-ce que cela signifie avec des prodiges mensongers? Cela signifie des miracles qui vont tromper les gens. Encore une fois, pendant la grande tribulation, des forces démoniaques vont être déliées sur la terre et conduire les nations de ce monde vers Armageddon. Apocalypse chapitre 16, verset 14, pour ceux qui ont leur Bible. Apocalypse chapitre 14. L'apôtre Paul décrit trois esprits impurs au verset 14. Trois esprits mauvais. Semblables à des grenouilles qui sortent de la gueule du dragon, de la bête et du faux prophète. Et voyez comment il les décrit. Frères et sœurs, on a la parole pour nous avertir. Et on a besoin de plonger nos regards dans la parole jour après jour pour ne pas nous laisser séduire par l'époque dans laquelle on vit. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, des miracles, et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Des esprits de démons rassemblant et conduisant les rois, les dirigeants et les tyrans de ce monde vers Armageddon. Et les mots clés ici dans ce texte, c'est des esprits de démons qui font des prodiges. Nous avons déjà vu que Samarie était un endroit où il y avait des gens qui étaient possédés, et que lorsque Philippe est arrivé dans cette ville, il y eut un grand réveil, au point où des esprits impurs, c'est-à-dire des démons, sortaient des gens. Frères et sœurs, il y a une puissance démoniaque mortelle dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a des gens qui jouent avec les... Au Québec, on a une expression, on dit qu'il y a des gens qui jouent avec les poignées de leur tombe et qui ne le savent même pas. Et il y a des chrétiens qui touchent à des choses qu'ils ne devraient pas toucher. Et qui, à un moment donné, se placent sous un joug qui les empêche d'avoir un amour pour la parole de Dieu, qui les empêche de marcher dans la vérité, dans la personne de Jésus-Christ. Et souvent, qu'ils ignorent qu'ils sont sous un joug. Et la parole nous est donnée pour qu'on puisse distinguer, identifier ces choses qui peuvent nous mettre sous un joug parce qu'on appartient à Jésus-Christ. Si le diable ne peut pas nous posséder, il est capable de nous paralyser à travers tous ces subterfuges, à travers toutes ces manipulations, ces manigances. Et la parole nous est donnée pour qu'on fasse attention à ces choses-là. Ce n'est pas une question juste de superstition, mais quelque chose de diabolique, un pouvoir magique qui agit dans notre monde aujourd'hui. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas éblouir par la puissance de la fausse religion. Elle est bien réelle. Et frères et sœurs, je vais vous donner un exemple très simple. La Bible nous dit que l'Ancien Testament nous a été donné à titre d'exemple. Les magiciens de Pharaon. Ils ont accompli des miracles qui auraient pu laisser entendre que Dieu était à travers eux, que Dieu travaillait à travers eux. Puisque nous parlons de la fausse religion qui imite le vrai christianisme, la première chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est la suivante. Si certains magiciens, certains devins, certains astrologues, certains nécromanciens, certains diseurs de bonne aventure viennent vers vous et font des choses que vous ne pouvez pas comprendre, ne les suivez même pas. Si vous vous dites, je sais bien que c'est vrai, car c'est là où se trouve le danger. Il ne faut pas les suivre, il faut plutôt les fuir. Ne vous laissez pas éblouir par la puissance satanique qui se trouve derrière les fausses religions, les faux miracles. Deuxièmement, ne vous laissez pas tromper par la foi superficielle de celui qui pratique une fausse religion. Ce ne sont pas toutes les fausses religions qui versent dans l'occultisme. Il arrive parfois qu'elles se déplacent dans l'Église. Rappelez-vous que Simon était un magicien et qu'il pratiquait la sorcellerie. Philippe prêchait Jésus, il est écrit, qu'est-ce qu'il est écrit au verset 13, ici dans le livre des Actes 13, que Simon, ce magicien, cet homme, possédé de plusieurs démons qui pratiquait lui-même la sorcellerie, crut et fut baptisé. Il ne quittait plus Philippe, car il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, versets 14 à 16, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous voyons ici la progression de la Pentecôte. Ces gens de Samarie reçoivent le Saint-Esprit comme ce fut le cas à Jérusalem. Et remarquez ce qui est écrit dans les versets 17 à 20, à 21. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné aux croyants, lorsque les apôtres imposaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et Jean en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acheter avec de l'argent. Tu n'as aucune part ni aucun droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas honnête avec Dieu. » Simon avait cru, mais il était toujours incroyant, incrédule, et non pas un chrétien né de nouveau. Il avait une foi superficielle et non pas la foi qui sauve. Il n'avait pas placé sa foi dans le Maître. Il avait placé la foi dans les miracles. Et il y a combien d'églises, il y a combien de gens qui se pensent chrétiens parce qu'ils vont dans des églises ou de toutes sortes de manifestations et qui pensent que Dieu est là et que c'est Dieu qui agit alors que c'est le malin qui agit au milieu d'eux. On n'accepte pas le Seigneur par des sentiments. On n'accepte pas parce qu'il y a une belle louange dans une église. Combien de gens sont séduits? Simon était toujours un croyant incrédule, parce qu'il avait mis sa foi dans les miracles qu'il voyait plutôt que dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le message qui était annoncé, celui du Seigneur Jésus. Vous dites, mais pasteur, il est écrit qu'il a cru. Il a cru. N'est-il pas sauvé? Lisez encore une fois le verset 21 avec moi. Lisez le verset 21. Et remarquez ce que Pierre dit. Tu n'as aucune part ni aucun droit dans cette affaire car ton cœur n'est pas honnête devant Dieu. Dieu fait des miracles, Satan imite Dieu et accomplit des miracles diaboliques, des prodiges diaboliques. Frères et sœurs, ne mettez jamais, jamais, jamais votre foi dans les miracles que vous voyez. Mettez votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Combien de gens qui se disaient chrétiens que j'ai rencontrés depuis 32 ans ont mis leur foi dans ce qu'ils voyaient plutôt que de mettre leur foi sur la croix et qui ont quitté l'Église, qui ont abandonné le Seigneur. Déçus de toutes les promesses qu'on leur a faites. Mais lui, frères et sœurs, lui, il ne vous décevra jamais. Amen. Il ne vous décevra, il ne m'a jamais déçu, il ne vous décevra jamais. Frères et sœurs, ce ne sont pas tous ceux qui croient qu'ils ont la foi qui sauve. Vous pouvez être un membre de cette Église. Vous pouvez avoir répondu positivement, intellectuellement à l'annonce de l'Évangile et n'avoir jamais rencontré Jésus-Christ au niveau de votre cœur. Si le cœur n'est pas touché, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et je l'ai dit la semaine passée, je vais le dire parce qu'il est ici ce matin, un beau témoignage qu'on a eu lors des derniers baptêmes, c'est celui de Ruben, qui disait qu'il avait reçu le Seigneur quand il était jeune, qu'il se croyait converti, et parce qu'il n'avait pas la victoire sur le péché, eh bien réalisé, parce qu'on les avait privés de jouer de la musique, il avait été blessé, hein, c'est son témoignage. Ça l'a amené à réfléchir, comme le fils prodigue. Hein. Le fils prodigue, on nous dit qu'il est rentré en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, il est rentré en lui-même? Il a commencé à réfléchir, puis là, il a commencé à réaliser qu'il était vraiment, qu'il était perdu. Et c'est ce que notre frère Ruben nous a raconté. Il a réalisé qu'il n'était pas né de nouveau. Alors, il y a combien de gens qui reçoivent le Seigneur Jésus, mais qui ne sont pas nés de nouveau? Ils ont entendu le message, mais la valve n'est pas ouverte, ici, ça ne descend pas. Et ils pratiquent une fausse religion, pas la religion qui sauve. Il y a combien de gens à l'étude biblique, depuis 3 ans, qui sont baptisés depuis des années et qui sont nés de nouveau, qui ont reconnu qu'ils étaient nés de nouveau il y a 2 ans, 3 ans, et cette année? Parce qu'ils ont permis que le message descende. Et ils nous donnent la différence entre les deux. J'étais religieux. Christ n'était pas présent dans ma vie. Christ n'était pas vivant dans ma vie. Christ a une béquille pour moi. Maintenant, il est vivant. Il m'a transformé. Je l'ai rencontré. Et ma vie est bouleversée. Des péchés que je n'étais pas capable de me débarrasser, c'est terminé. Simon crut et il fut baptisé, mais pas sauvé. Il y a combien de gens qui sont baptisés et qui pensent qu'ils vont être délivrés à partir du moment où ils vont être baptisés? Il y a combien de gens qui voient un miracle dans le baptême des croyants? Il n'y en a pas, hein? À part de nous laver, là, il n'y en a pas, hein? Pratiquement. Symboliquement, oui, ça représente qu'on est mort en Christ et qu'on, quand on sort de l'eau, qu'on est ressuscité en Christ. On a enterré notre vieille vie, puis là, on est ressuscité, on est de nouveau dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Mais combien de baptistes sont tombés dans le piège de penser que le baptême est un acte miraculeux? Tournez avec moi dans Jean chapitre 2. On va lire les versets 24, 23, 25. Et pendant que vous tournez dans Jean chapitre 2, permettez-moi de vous donner le contexte de ce passage. Jésus avait accompli des miracles à Jérusalem, à Cana et en Galilée, et à d'autres endroits où les gens avaient vu ces miracles s'accomplir. Et lorsque les gens virent les miracles que Jésus avait faits, ils commencèrent à le suivre, frères et sœurs, non pas parce qu'ils voulaient Jésus, ni parce qu'ils s'étaient repentis de leurs péchés, mais juste parce qu'ils avaient vu Jésus faire des miracles. Et ils le suivaient à cause de cela. Lisons maintenant ce que Jean écrit. Verset 23-25. Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de la Pâque, plusieurs crurent en lui. Regardez bien, en voyant les miracles qu'il faisait. Frères et sœurs, vous voulez bien me dire, le jour où il s'est fait crucifier, qu'il y avait combien de monde que Jésus avait guéri? Combien de monde que Jésus avait accompli des miracles dans leur vie? Vous pouvez me dire le nombre de personnes qu'il y avait pour soutenir Jésus quand il s'est fait crucifier? Sur 10 qu'il avait guéri un jour, vous vous souvenez? Sur 10 qu'il avait guéri, il y en a un seul qui est revenu. Espérons que ce n'est pas la moyenne dans l'Église. Hein? Sur 10 qui acceptent le Seigneur, il y en a juste un qui est sauvé. Hein? Sur 10 qu'il avait guéri, un seul est revenu. Il lui dit merci. Frères et sœurs, quand on est né de nouveau, là, on ne peut pas faire autrement qu'à chaque jour quand on se lève de remercier. Remercier. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai dit qu'on dit facilement que Jésus nous a sauvés. Hein? Jésus nous a sauvés. J'ai dit ça il y a 3 semaines, hein, quand j'ai parlé des 3 signes. Hein? Mais si je vous posais la question à ceux qui n'étaient pas là il y a 3 semaines, il vous a sauvé de quoi? Il vous a sauvé de quoi, Jésus? Quand vous allez raconter, vous allez témoigner aux gens, Jésus vous a sauvé de quoi? Je vais vous dire, c'est un mot qu'on n'aime pas entendre, il vous a sauvé de l'enfer. Ouais, c'est ça qui vous a sauvé, Seigneur. Hein? Il vous a sauvé de l'enfer. On ne dit pas aux gens, on dit, Seigneur m'a sauvé. Ben, si la personne a dit, il t'a sauvé de quoi? Ah, il m'a sauvé de quoi? Il vous a sauvé de l'enfer, c'est ça le message biblique, hein? Jésus est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus, condamnés à aller en enfer, subir le jugement de Dieu. On n'aime pas entendre ces mots-là, quoi. Oui, Dieu t'aime, Dieu. Non. Dieu t'aime, ouais. Mais comment il a montré Dieu qui t'aime? Pour te sauver de l'enfer, il a sacrifié son fils, il a fait vivre l'enfer à son fils sur la croix. Ça, c'est le message évangélique, ça. Jean écrit qu'ils ont cru en ce que Jésus faisait comme Simon le magicien. Mais ils n'ont pas cru dans la personne de Jésus pour leur salut. Permettez-moi de relire encore une fois les versets. Plusieurs crurent en lui en voyant les miracles qu'il faisait. Et regardez bien la suite. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous très bien. Il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur qui que ce soit, car il savait lui-même ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Jésus savait que ce n'étaient pas des vrais chrétiens. Je le dis avec une grande tristesse dans mon cœur. Il y a combien de gens qui fréquentent une église, qui disent être chrétiens, mais qui ne sont pas sauvés, qui connaissent le plan du salut, mais qui ne connaissent pas celui qui sauve, qui ont vu ce que Dieu a fait, mais qui n'ont jamais laissé Dieu transformer leur cœur. Vous dites, est-ce qu'il n'est pas écrit, « Crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé » C'est vrai. C'est vrai que c'est écrit. Mais il est aussi écrit que les démons le croient et qu'ils tremblent. Pourquoi les démons tremblent? Pourquoi les démons croient puis qu'ils tremblent? C'est parce que c'est une fausse foi. Et parce qu'ils tremblent, ils savent qu'il y a un jugement qui va tomber sur eux à la fin des temps. Sinon, ils ne trembleraient pas. Chers amis, il y a des gens qui ont une foi qui est superficielle, c'est-à-dire qu'ils ont une foi qui ne sauve pas parce qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus et pour qui il n'a jamais été le Seigneur de leur vie. Cette foi, elle réconforte, elle soulage, mais elle ne sauve pas. C'est la même foi que celle de ce pharisien qui disait... Regardez dans Luc. Allez dans Luc avec moi. Luc, chapitre 18, versets 12 à 14. Regardez ce que le pharisien disait. « Ô Dieu, je te rends grâce, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Ça veut dire quoi, ça? « Ô Dieu, je te remercie, moi, je ne suis pas perdu. » Ben, il vient de se disqualifier, hein? Regardez la suite. « Comme le reste des hommes qui sont voleurs, mauvais et adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts là, qui est à côté de moi, je jeûne 2 jours par semaine et je donne le 10e de tous mes revenus. » Et regardez la suite, le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. » Et qu'est-ce que Jésus dit? Je vous le dis, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. Pourquoi? Verset 9. Quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Le pharisien avait une foi superficielle, celle de la fausse religion, celle qui ne sauve pas. Il se croyait juste aux yeux de Dieu, mais il méprisait les autres. Et il désobéissait au deuxième commandement qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Frères et sœurs, la fausse religion, celui qui pratique une fausse religion dans l'Église, il se console d'être moins pire que son prochain, que son voisin, que son frère ou sa sœur qui vient à l'Église. Il ne se compare jamais à Jésus-Christ. Celui qui est né de nouveau, la seule comparaison qu'il peut faire, c'est de dire « Seigneur, aide-moi à devenir semblable à Jésus-Christ. Aide-moi. » Et quand il voit un frère plus faible qui est dans le péché, qui baigne dans le péché, il va le trouver. Il le reprend avec amour. Et il demande s'il ne peut pas prier avec lui. Il demande ce qu'il y a qui ne va pas dans sa vie. Et lorsque le frère le confesse, il lui demande s'il ne peut pas prier avec lui pour qu'il en soit délivré. Il a une compassion, la compassion de Jésus-Christ. Ça, c'est celui qui a la foi qui sauve. Celui qui n'a pas la foi qui sauve, « Ah! As-tu vu ce qu'il fait? Ah! As-tu vu ce qu'elle fait? Ah! As-tu vu quel péché il baigne? Ah! » Jésus dit, le pharisien, lui n'est pas sauvé. Mais celui qui s'humilie, « Seigneur, je ne suis même pas digne de lever mes yeux vers le ciel. Même pas digne. Et je te remercie d'avoir oublié tous les sapristis de péché que j'ai commis dans ma vie. » Parce que si tu ne les oublierais pas, je serais digne d'aller en enfer. Le Seigneur, il dit, toi, tu es en règle avec moi. Toi, tu es en règle avec moi. Frères et sœurs, dans cette salle ce matin, êtes-vous tous en règle avec le Seigneur Jésus? Il est crucial de comprendre que ce qui unit la plupart des gens qui affirment être des chrétiens nés de nouveau, c'est le fait de témoigner qu'ils ont vécu une expérience personnelle qui a changé leur vie. Vous n'êtes pas né de nouveau parce que vous avez vécu des émotions, parce que vous avez versé des larmes, ou encore parce que vous avez adopté une certaine position doctrinale, ou parce que vous partagez certaines croyances concernant certaines questions morales, par exemple l'euthanasie, l'avortement, l'homosexualité et autres. Les milliers d'églises ont sur leur liste de membres des gens qui se disent chrétiens parce qu'ils sont devenus d'honnêtes citoyens en entendant l'Évangile, mais qu'ils ne sont pas pour autant nés de nouveau. Simon le magicien affirmait qu'il croyait, mais Pierre dira, « Tu n'as aucune part ni aucun droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas honnête avec Dieu. Tu as le même cœur pourri que tu avais avant d'entendre l'Évangile. » Frère, c'est ça, je ne vous demande pas de confesser publiquement quoi que ce soit. Je ne vous connais pas, je ne vis pas avec vous. Frères et sœurs, le jour où vous avez rencontré Jésus-Christ, est-ce que c'est une rencontre extraordinaire dans vos vies? Meilleure que celle le jour où vous avez rencontré votre femme ou votre mari? Votre femme et votre mari, ça va durer le temps que vous allez vivre. La rencontre avec Jésus-Christ, ça va durer pour l'éternité. Cette rencontre avec Jésus-Christ, est-ce que c'est une rencontre miraculeuse? Qui a fait en sorte que quand vous vous êtes détourné, vous vous étiez transformé, bouleversé, et que dans votre cœur, vous vous êtes dit, c'est ça que j'ai toujours cherché. Que vous ayez été élevé dans l'Église ou pas, si vous avez été élevé dans l'Église, vous n'avez pas commis de gros péchés. Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Vous devez vous repentir de vos péchés. Vous devez reconnaître que vous êtes perdu, comme Ruben le fait dans son témoignage. Vous n'êtes pas donné à Jésus-Christ parce que votre mère vous a dit ou votre père vous a dit, il est temps, hein? L'autre vient de se donner à Jésus-Christ. Hein? Regarde l'âge que tu as, dépêche-toi, hein? Pas passer pour un arriéré, hein? Ça va nulle part, ça ne mène pas au ciel, ça. Avez-vous fait cette rencontre miraculeuse et intime avec Jésus-Christ? Mon but, ce n'est pas de vous condamner ce matin. Mon but, c'est de vous bousculer un petit peu pour que vous puissiez faire le point sur votre relation avec le Seigneur Jésus. Ce matin, vous qui êtes dans cette salle, est-ce que vous ne regrettez pas les premiers moments où vous avez rencontré Jésus? Et que vous aimeriez bien retrouver cette joie que vous aviez au début. Si le Saint-Esprit vous parlait ce matin, qu'est-ce qui a amené ce blocage dans votre vie? Pour vous voler votre paix, votre joie, cette paix que vous avez reçue au moment où vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit il y a deux semaines. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous voler notre paix et notre joie. Et c'est un péché. Et ce péché, c'est le vôtre. Ce n'est pas le mien, c'est le vôtre. Il y a un seul péché qui peut m'empêcher d'avoir cette joie, cette paix du Seigneur, et c'est mon péché à moi. Un péché souvent que je suis tout seul à connaître. Et le Seigneur Jésus, bien sûr. Et tout ce qu'il veut, les bras ouverts encore aujourd'hui, il dit, rappelle-toi, je suis fidèle et juste pour te pardonner tout péché. Tout péché. Supposons que vous mouriez aujourd'hui, que vous vous teniez devant Dieu, qu'il vous dise, pourquoi devrais-je te laisser entrer au ciel? Pourquoi devrait-il vous laisser entrer au ciel? Qu'est-ce que vous répondriez? Parce que vous êtes né dans l'Église, parce que vous avez fait l'école du dimanche, parce que vous avez participé au groupe jeunesse, parce que vous avez suivi les études bibliques, parce que vous avez été baptisé, parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Ça ouvre aucune porte, ça. Aucune porte. Hein? Pourquoi devrais-je te laisser entrer au ciel? Je vous l'ai dit dans mon témoignage, hein, ça c'est la question qui m'a bousculé et qui a changé ma vie. Je répondais à travers mon catéchisme que j'avais appris. Et plus je répondais, plus je voyais dans son salon un immense abîme qui s'ouvrait. Je me voyais tomber dedans pour l'éternité. Et là, mes jambes ont commencé à trembler parce que pour la première fois de ma vie, à l'âge de 33 ans, je réalisais que je ne savais pas où je passerais l'éternité, que ma religion n'avait aucune réponse. Pourquoi devrais-je te laisser entrer au ciel? Quelle serait votre réponse ce matin? La seule réponse valable que vous pouvez donner se trouve dans Jean chapitre 5, verset 24, où Jésus dit, en vérité, je vous le dis, pas quiconque m'accepte, pas quiconque croit en moi, quiconque écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Écoute ma parole, obéis à ma parole, va démontrer qu'il a cru en moi. Pourquoi? Parce que l'esprit qui habite en moi, c'est le même esprit qui habite en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que je reçois comme héritage. Le premier héritage que je reçois quand je rencontre la personne de Jésus-Christ, il me donne son esprit. Et il dit, écoute bien, le même esprit qui m'empêchait de chuter dans toute tentation que j'ai rencontrée sur la terre, c'est ce même esprit que je te donne. Arrête de combattre pour être délivré d'un péché. J'ai combattu pour toi. La victoire, je l'ai déjà acquise. Appuie-toi sur la victoire que j'ai acquise. Le problème, c'est que quand on ne saisit pas ce point-là, on se dit, je suis sauvé, mais je me bats toujours à essayer d'être délivré d'un péché. Mais tu es délivré. La seule chose, c'est que tu ne le prends pas par la foi, cette promesse. C'est Jésus qui vient en nous. Ce Jésus qui était capable de dire non à toute tentation, il est capable de te faire dire non à toute tentation, hein? Vous pensez que le salut, c'est juste qu'il t'a pardonné tes péchés? Non! Il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés du monde, il nous a délivrés du malin. Et tant qu'on ne saisit pas ça, ce qui s'est passé véritablement à la croix, on se bat avec le péché et le diable, il aime ça parce qu'il nous embarque dans une religion. Et vous savez ce qui arrive quand on embarque dans une religion? On ne voit pas de résultat et là, on abandonne tout. On laisse tomber les frères et sœurs, on laisse tomber l'Église et là, on y va à fond de train dans le monde, on y va à planche, hein? Et Pierre nous dit, écoute, si toi t'as entendu la vérité, puis tu baignes dans le monde, t'es encore deux fois plus malheureux que le païen qui a jamais entendu l'Évangile. Et sur la base de votre parole, sur la base du sang versé de votre Seigneur Jésus-Christ et de votre foi en lui, vous verrez les portes du ciel toutes grandes s'ouvrir. Et le Seigneur vous dira, c'est bon. Regardez ce qu'il dit. C'est bon et fidèle serviteur. C'est bon et fidèle serviteur. C'est bon, serviteur, parce que tu m'as obéi. Entre dans la présence de ton maître. Viens partager la joie que moi j'ai en tant que Seigneur. Viens la partager. C'est ce qu'il dit, hein? Matthieu chapitre 25, verset 23. C'est bon, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Il ne dit pas en toutes choses. Hey, ce n'est pas un Dieu gracieux. Il ne dit pas tu as été fidèle en toutes choses. On serait disqualifié. Ils étaient fidèles en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la présence de ton maître dans la joie. Extraordinaire, frères et sœurs. Extraordinaire. Chers amis, il vaut mieux vous assurer que vous n'êtes pas, vous n'avez pas une foi superficielle, mais la foi qui sauve. Cet homme qui s'appelle Simon était un croyant, mais il n'était pas sauvé. Voici le troisième et dernier point. Alors, on est en train de parler du faux christianisme qui est répandu dans le monde. Rappelez-vous la puissance satanique qui se cache derrière la fausse religion. Rappelez-vous la foi superficielle que manifestent ceux qui pratiquent la fausse religion. Et dernièrement, ne vous laissez pas séduire par l'image égoïste que dégage celui qui pratique une fausse religion. Est-ce que vous connaissez le carburant qui alimente la fausse religion? C'est l'égoïsme. Vous ne devez pas trop réfléchir longtemps lorsque vous lisez ce passage ici dans Actes chapitre 8 pour découvrir jusqu'à quel point Simon était imbu de lui-même. Il était centré sur lui-même. Vous savez la différence depuis que j'ai rencontré le Seigneur Jésus, frères et sœurs? Moi, j'étais un gars dans le monde. J'étais donc centré sur moi. Ah! Et j'utilisais tous les gens que j'étais capable, je les utilisais pour arriver à mes fins. Et là, j'étais content. J'étais content. Et depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, mon cœur est centré sur les autres. Et là, je ne me sers plus des gens pour arriver à mes fins. Je sers les gens pour que Dieu arrive à ses fins dans le cœur de ces gens-là, les amener de passer des ténèbres à la nouvelle naissance. Ça, je ne suis pas capable humainement parlant de le faire. Même un bon religieux n'y arriverait pas. Il faut avoir fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, vous savez ce qui va arriver, ce que je vais dire? Et moi, j'étais pasteur pendant 20 ans. Ça, c'est religieux, ça. Ça cumule des récompenses. Seigneur, ça va être quoi les points, le point que tu vas me donner sur mon bulletin? 20 ans, je t'ai servi? Non. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Peu importe le nombre d'années que tu m'as servi. La seule prière que tu peux dire, merci dans ta grâce d'avoir su utiliser un serviteur aussi inutile que moi. Lisons les versets 9 et 10. Mais il y avait dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, qui exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, des plus jeunes aux plus âgés, l'écoutaient attentivement et disaient, « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. » Versets 14 et 15. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Versets 18 et 19. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné aux croyants par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Voilà un homme imbu de lui-même, en d'autres mots, un égocentrique, un orgueilleux. Est-ce que vous savez ce qui fait que le diable est ce qu'il est? C'est son égocentricité, c'est son orgueil démesuré. C'est ce qui fait qu'il est si orgueilleux. Dans Ésaïe chapitre 14, pour ceux qui ont leur Bible, Ésaïe chapitre 14. Versets 12 à 14, Isaïe parle de Lucifer, le diable, et voici ce qu'il dit. « Te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin. Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. » Et maintenant, il décrit le processus qui va amener le diable à être ce qu'il est. « Tu disais en ton cœur, je monterai jusqu'au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus de celui de Dieu. Je siégerai sur les montagnes où les dieux tiennent leur conseil. » À l'extrémité nord, je monterai au sommet des montagnes, je serai semblable au Très-Haut ou l'égal de Dieu, du Dieu Très-Haut. À 5 reprises dans ce passage, frères et sœurs, le diable, pour vous démontrer combien il est imbu lui-même, il va prononcer le mot « je ». Je. J'ai fait ça. Je suis comme ci. Je suis comme ça. Jésus, il est absent. Il est absent. Vous voulez savoir quelqu'un qui pratique la fausse religion, vous demandez ce que le Seigneur a fait dans sa vie. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réussi à avoir ci, j'ai réussi à gagner ça. C'est pas ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait dans ta vie? Il y a une question que je pose quand je fais du porte-à-porte, c'est ma deuxième question. La première question, je dis aux gens, avez-vous une quelconque croyance spirituelle? La deuxième question, et là, les gens, ils parlent, hein? La deuxième question, qui est Jésus pour vous? Frères et sœurs, qui est Jésus pour vous ce matin? Quelqu'un qui s'est fait crucifier pour vous ou quelqu'un qui opère encore des miracles dans votre vie ce matin? Toute fausse religion pour base l'orgueil, elle met l'accent sur le moi. Comment pensez-vous que Satan réussit à convaincre Ève de prendre du fruit défendu? Il a concentré son attaque sur elle, sur ce qu'elle pouvait devenir. Vous serez comme des dieux. Ève, pense-y ce que tu vas devenir. Ouais. Oublie-le, lui. Toute fausse religion est centrée sur le moi. Dans 1 Timothée chapitre 6, Paul demande à Timothée de faire attention à ceux qui enseignent de fausses doctrines. Voici ce qu'il dit au verset 3 et 4. « Si quelqu'un enseigne une fausse doctrine ou une autre doctrine, s'il s'écarte de celle, c'est-à-dire s'il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à notre foi, c'est-à-dire qui aspire à vivre dans la sainteté, il est enflé d'orgueil et ignorant. » Et ça veut dire qu'il ne le connaît pas. Ignorant. Qu'est-ce qui pousse les facultés de théologie à donner un enseignement libéral? Qu'est-ce qui amène certains à rejeter la parole de Dieu? C'est l'orgueil. Qu'est-ce qui fait en sorte que le diable est le diable? C'est l'orgueil. Qu'est-ce qui est la source, le carburant, la racine de toute fausse religion? C'est l'accent qui est mis sur le moi. Moi, je suis meilleur que ma soeur. Moi, je suis meilleur que mon frère. Eh bien, toi, t'es perdu. T'es perdu dans tes péchés parce que tu t'élèves au-dessus de ton frère et de ta sœur. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit à ses disciples? Il faut que je diminue que lui. Ben oui. Hey, Jean-Baptiste, il avait un ministère qui fleurissait, il baptisait, il n'arrêtait pas. Il faisait du supplémentaire à tous les jours. Il aurait pu avoir la tête grosse comme ça. Mais il a laissé la place dans sa vie à Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur nous amène à faire. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire. C'est un esprit, c'est l'accent qui est mis sur le moi, c'est un esprit égocentrique, un esprit orgueilleux qui est derrière tout cela. Par conséquent, si vous voulez connaître la vérité, vérifier ce qui est vrai, marcher selon la vérité, il vous faut sonder les Écritures, sonder la parole. Frères et sœurs, le Seigneur, il dit dans Thessaloniciens qu'à la fin des temps, écoutez bien, c'est important que vous plongiez vos regards dans la parole, sinon vous allez vous faire embarquer. Fin des temps, le jugement de Dieu, c'est qu'il va envoyer une puissance d'égarement dans le monde pour empêcher les gens de recevoir Jésus-Christ. Pas le diable, le Seigneur, parce qu'il va avoir été tellement gracieux, il va avoir envoyé tellement de signes. La parole nous dit, à travers l'apôtre Paul, Dieu va envoyer une puissance d'égarement à la fin des temps. Sérieux, ça? Sérieux, frères et sœurs? Il est évident que Simon s'impliquait non pas pour ce qu'il pouvait donner, mais pour ce qu'il pouvait obtenir. Versets 19 à 20, on les a lus. Hein? Pierre dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu pouvait s'acheter avec de l'argent. Vous avez déjà rencontré des chrétiens qui vous donnent un don, qui vous font un don en argent pour pouvoir avoir un poste de responsabilité dans une église? C'est déjà arrivé, ça. Des gens comme Simon, qui se pensent sauvés, tout ce qu'ils cherchent, c'est le prestige. On verse dans ton compte, tu n'as même pas demandé, en autant qu'on a ton numéro de compte, on t'en verse dans ton compte. Et là, tu es lié, on essaie de te lier avec ça. Les gens cherchent le prestige, comme Simon. Donne-moi ce pouvoir, j'impose les mains comme vous, que ça tombe de tous côtés, puis que les gens soient sauvés, puis que les gens soient guéris. Si la racine de toute fausse religion, c'est l'orgueil, laissez-moi vous dire quel est le fruit. Pierre le dit à Simon, verset 23. « Je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité, c'est-à-dire prisonnier du péché. Le fruit, c'est l'amertume et l'esclavage. Le mot « fiel » signifie « mal amer » ou « poison ». Tu es empoisonné, Simon, tu as le cœur empoisonné. La fausse religion est un poison qui nous maintient prisonniers. C'est tellement vrai. Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de gens, beaucoup d'églises ont des problèmes? parce qu'il y a des gens qui sont amers et qui vivent en étant prisonniers du péché, de la nature humaine, du monde et du malin. Ils ont découvert la religion, mais ils n'ont jamais découvert Jésus-Christ. Ils ne se sont jamais humiliés au pied de la croix. Ils n'ont jamais laissé tomber leur orgueil dans la poussière. Ils fréquentent une église, non pas pour ce qu'ils peuvent donner à l'église, mais pour ce qu'ils peuvent recevoir. Ils n'ont jamais, jamais rencontré Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans leur cœur et ce sont des gens qui causent des problèmes partout où ils vont parce que leur religion ne les a jamais satisfaits et ne pourra jamais les satisfaire. Ils sont déçus parce que leurs désirs restent inassouvis et ils ne seront jamais, 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 jamais satisfaits. Et quand ils ont créé un chambard, ils quittent, ils s'en vont ailleurs. Et ils magasinent d'église en église. Même dans sa repentance, dans sa soi-disant repentance, nous distinguons l'orgueil de Simon. Remarquez ce que Pierre lui dit au verset 23. « Tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Remarquez ce que Simon dit au verset 24 maintenant. « Priez vous-même le Seigneur pour moi. » Frères et sœurs, première question que je me suis posée. Pourquoi Simon ne prie pas? Ça me fait penser à Pharaon, ça, dans Exode, qui dit à Moïse, « Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Pharaon, pourquoi tu ne pries pas? » C'est simple, parce que Pharaon ne connaît pas Dieu. Pourquoi Simon demande à Pierre de prier? Parce que Simon n'est pas capable de prier, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas Jésus. Priez vous-même, Seigneur, pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Il n'a pas dit, priez pour moi, afin que je mette ma vie en règle avec Dieu. Non, tout ce qu'il voulait, c'était éviter d'avoir des problèmes. Tout ce que Pharaon cherchait dans l'Ancien Testament, c'est d'éviter d'avoir des problèmes. Il n'y en avait rien à cirer de Dieu, Pharaon. Prie pour moi, Moïse, prie ton Dieu pour moi, afin que j'aie plus ces problèmes. Ce dernier fléau, pas ce dernier, mais ces fléaux qui arrivent un derrière l'autre. Prie Dieu pour moi, prie ton Dieu, Moïse. Et ici, Simon dit, Pierre, prie ton Dieu, Pierre. Le cœur de cet homme n'a jamais été changé. Il n'y a eu aucun changement dans la vie de Simon, il est toujours centré sur lui-même, même s'il s'est soi-disant repenti. Vous lirez à la maison, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Chapitre 7, verset 10. On a analysé ce verset-là pendant quelques semaines à l'étude biblique. Hein? La repentance qui mène à la mort et la repentance qui mène au salut. La différence entre les deux. Et ici, c'était la repentance qui mène à la mort. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre Simon et un enfant de Dieu lorsqu'ils pêchent tous les deux? Celui qui n'est pas sauvé, lorsqu'il pêche, craint les conséquences du péché. Tandis que celui qui est sauvé a le cœur brisé parce qu'il sait qu'il a attristé le cœur de Dieu en désobéissant à la parole. Celui qui a péché, là, il n'est pas capable de s'endormir, pas parce qu'il est triste. Il ne peut pas s'endormir parce qu'il a tellement peur que Dieu vienne le chercher durant la nuit. Il sait qu'il n'est pas en règle avec Dieu. Il a tellement peur qu'il confesse son péché juste parce qu'il a peur de ne pas aller en enfer. Mais celui qui est vraiment né de nouveau, il est tellement attristé d'avoir désobéi à la parole, parce qu'il voit la communion avec son Seigneur qui est disparue. Il voit aussi son Seigneur qui est attristé là-haut, de voir que son enfant désobéit à sa parole, qui se jette à genoux au pied de la croix et dit, « Seigneur, je te demande pardon. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es un Dieu qui m'aime, que tu es un Dieu qui est gracieux, qui est patient avec moi, qui est miséricordieux. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, de me relever. Merci, Seigneur. » Je termine avec la seule illustration, tiens, du message. Une femme était dans sa maison lorsqu'on frappa à la porte. Elle ouvrit et se trouva face à face avec un homme qui lui dit, « Madame, connaissez-vous Jésus? » Elle fut si troublée et embarrassée par la question qu'elle bégaya et incapable de dire un mot. Pour toute réaction, elle recula et referma la porte. L'homme partit en inclinant la tête et en faisant un signe de tête négatif. Pardon. Elle dit qu'elle rencontre un peu plus tard le mari revient du travail, sa femme lui dit, « Chérie, laisse-moi te dire ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Un homme a frappé à la porte de la maison et m'a posé une question. Il m'a demandé si je connaissais Jésus. Je ne savais pas quoi lui dire, lui répondre, et j'ai fermé la porte derrière lui. Je suis tellement désolé. J'aimerais pouvoir le retrouver, m'excuser. » « T'excuser? » répliqua le mari. « Tu as bien fait de lui claquer la porte au nez. Quel droit avait-il de te poser une telle question? Pourquoi ne lui as-tu pas dit que nous sommes membres d'une église? Elle répondait à son mari, « Mais chérie, ce n'est pas ce qu'il m'a demandé si j'étais membre d'une église. Il m'a demandé si je connaissais Jésus. » Eh bien, pourquoi ne lui as-tu pas dit que nous sommes de bons citoyens, que personne n'a rien à nous reprocher, que nous n'avons jamais eu rien, quoi que ce soit avec la commune, avec les autorités civiles, avec les autorités policières? Mais chérie, ce n'est pas ce qu'il m'a demandé. Il m'a juste demandé si je connaissais Jésus. Est-ce que le simple fait d'aller à l'église, d'être membre d'une église, dit-elle, ou de ce que les membres pensent de nous, ou à quelle dénomination nous appartenons, nous permet de connaître Dieu, son Fils Jésus-Christ, qu'il a envoyé? Frères et sœurs, ce matin, en terminant ce message, est-ce que vous connaissez Jésus-Christ ce matin? Penchez la tête, fermez les yeux. On va prier. Regardez pas ce que votre voisin fait. Si le Saint-Esprit vous examine ce matin, sans aucun esprit de condamnation, de jugement. La plus grande prière, c'est que tous et chacun, vous puissiez sortir d'ici ce matin, en étant en règle avec le Seigneur. Je ne vise absolument pas à condamner qui que ce soit. Je ne suis pas supérieur aux autres. J'ai mes combats, j'ai mes difficultés aussi. Mais pendant que les têtes sont baissées, que les yeux sont fermés, j'aimerais vous inviter à faire cette prière. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez été une sorte de croyant incrédule. Peut-être que vous aviez une foi intellectuelle, ou que vous avez été impressionné par des miracles, des guérisons que vous avez vues et entendues, par des visions d'un et des autres. Mais vous n'avez jamais vraiment donné votre cœur à Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes baptisé, que vous vivez rien que le Seigneur. Voulez-vous faire cette prière avec moi? Je vous invite à la faire. Seigneur, je sais que tu m'aimes et que tu veux me sauver. Jésus, tu es mort sur la croix pour moi. Tu as promis de me sauver si je voulais te faire confiance. C'est la décision que je prends ce matin. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu as payé pour mon péché en versant ton sang sur la croix. Et maintenant, Seigneur, je te reçois, non pas par une foi superficielle, mais Seigneur, j'ai compris ton message intellectuellement. Et maintenant, Seigneur, ce message, il descend, je veux qu'il descende dans mon cœur. Et par la foi, Seigneur, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Viens dans mon cœur et pardonne-moi mon péché, Jésus. Purifie-moi de tout péché. Dites cette prière, pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, dites cette prière dans votre cœur. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Jésus. Ensuite, priez de cette façon. Je te remercie, Seigneur, de m'accepter. Je te reçois par la foi, une fois pour toutes. Tu es maintenant mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Et je veux vivre le restant de ma vie pour toi. Non pas parce que tu m'as sauvé. Non pas pour être sauvé, mais parce que tu m'as sauvé. Je reçois le salut comme un cadeau. Et je désire te servir toute ma vie. En ton nom, je t'ai prié, Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur ne fera pas d'appel ce matin. Vous savez que... Vous savez ce que vous avez, vous savez ce que vous vivez avec le Seigneur. Et vous savez la décision que vous avez prise, si vous aviez besoin de prendre.